Métaphysique Père Philippe, 10 novembre 1983 à Saint-Joseph.
Point de départ. Quel est le point de départ de la philosophie? Je vous avais rappelé rapidement, quand on regarde un peu la philosophie grecque, et puis à partir de Descartes, comment ces points de départ étaient très divers. Hein. Il s'agit de comprendre le point de départ qui peut nous conduire le plus loin, du côté de l'extension et du côté de la compréhension. Ce sont les deux critères, puisque la philosophie se présente comme une connaissance de l'homme qui se veut exhaustive, qui n'est pas particulière, spécialisée, mais qui se veut aller le plus loin possible dans la connaissance de l'homme. Il faut donc que le point de départ soit vraiment le plus fondamental. Si je prends un point de départ qui, en lui-même, implique un autre, tout ce qui est avant ce point de départ sera donc laissé de côté. Vous allez tout de suite saisir. Si je prends comme point de départ l'expérience interne, vous avez là un grand courant philosophique, le néoplatonisme, vous le verrez de mieux en mieux. Hein. Pratiquement, il y a deux grands courants philosophiques, le néoplatonisme et l'aristotélisme. Puis à côté, il y a des tas de petites choses secondaires, mais les deux grands, le Rhône et le Rhin, choisissez. Mais le Rhône et le Rhin, c'est deux grands fleuves pour notre Europe, puisque pour l'Amérique, ou pour l'Inde, c'est différent. Mais au fond, le Rhône et le Rhin. Alors, nous avons deux grands courants, le néoplatonisme et l'aristotélisme. Le néoplatonisme commence par l'expérience interne, sans supprimer l'expérience externe. Platon ne supprime pas. Mais tout est en référence avec l'expérience interne. Je dis, si on prend l'expérience interne comme point de départ, il y a des quantités de choses qu'on doit laisser tomber. Quelle est la grande expérience interne? C'est celle de l'amour. Ou c'est celle de la vérité. Ça, la grande expérience interne, intérieure. Ou, si vous voulez, c'est l'idée artistique, l'idéa que j'ai. Bien, si je prends ce point de départ, il y a des quantités de choses que je laisse tomber, c'est-à-dire le contact plus immédiat que j'ai grâce à mes sens externes. Quand je réfléchis sur l'amour que j'ai pour une personne, ma sensation n'est pas directement en cause. Je laisse tomber. Et je ne regarde que l'amour que j'ai pour cette personne. Je ne regarde que le point de vue, la recherche de la vérité, ou la vérité elle-même, sans tenir compte des sens externes. Donc, je laisse tomber tout cela. Alors, les sens externes me disent quand même quelque chose. Les sens externes me parlent des qualités. Quand vous traversez une forêt, à cette époque-ci, ben, c'est pas indifférent de regarder les couleurs, la lumière. Ah non, moi, uniquement, je suis un homme tout intérieur. Tout intérieur. Il y a le point de vue de l'intériorité qui compte. Ça, c'est extérieur. La preuve, c'est que ça change. Hein. Dans un mois, toutes les feuilles seront tombées. Donc, vous voyez bien, c'est pas ça qui m'intéresse. Je m'intéresse à l'architecture des arts. C'est uniquement ça qui m'intéresse. Il y a donc quelque chose que vous laissez tomber. Et pourquoi le laisser tomber? Peut-être que ces qualités extérieures, ces qualités sensibles, sont peut-être bien plus importantes que vous le dites. Ça joue peut-être un rôle beaucoup plus important que vous ne pouvez le penser. Si vous dites que vous regardez l'architecture de l'arbre. Oui, c'est pour vous faire comprendre que si je pars uniquement des sens internes, toute une quantité de contact avec le réel existant, parce que le plumage fait partie du réel existant. C'est évident. C'est le poulet, hein, c'est pas uniquement la carcasse. Hein, et ce que vous mangez, mais il y a autre chose. Hein. même si, ça, si de fait vous laissez tomber les plumes et vous ne les mangez pas, et les feuilles, ça fait partie aussi. Alors, vous voyez, vous avez un a priori de toute une série de choses que vous laissez tomber. L'essence, donc l'expérience interne, est une expérience seconde. Toute mon expérience interne provient de tout le milieu dans lequel je me trouve et dans lequel, de fait, j'ai eu ce contact. De sorte que si je veux aller le plus loin possible dans la connaissance, il y a une connaissance que je n'explore plus. Oui, facile à comprendre, ça. C'est évident que c'est très difficile dès que je fais un chef. Hein. Vous voyez, vous êtes le chef de l'expérience externe. Hein. Le chef de l'expérience interne. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce que l'expérience interne, c'est vrai, le plus interne. Mon âme qui est là. Elle a l'expérience interne. Mais ce cercle de l'expérience interne a cet immense avantage, c'est que d'une certaine manière, il est ouvert à l'infini. Tandis que l'expérience externe, c'est directement les réalités sensibles. Vous direz, c'est secondaire. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement ça. Au nom de quoi vous dites ça? Au nom d'un a priori. Vous ne pouvez pas dire d'avance. Oui. Et quand vous êtes en face de Nietzsche, Nietzsche dit qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est l'expérience au sens externe. Le reste, vous n'en savez rien. C'est imaginaire. C'est vos sentiments. C'est du subjectif. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. Vous ne pourriez pas répondre. Vous voyez, c'est intéressant de voir que, de fait, si je pars de l'expérience interne, il y a quelque chose que je néglige, a priori. Si je pars de l'expérience externe, je ne néglige pas l'expérience interne. Je dis qu'elle est seconde. Je dis que toute expérience interne provient d'une expérience externe. Et qu'il y a en moi une extériorité, mon corps, et grâce à mon corps, j'ai des sensations externes, c'est bien évident. Et grâce à mon âme, j'ai une intériorité. J'ai les deux. Et je mets un ordre entre les deux. C'est que je considère que tout l'élément sensible et de fait premier, et que l'élément externe, premier, génétiquement, je ne dis pas en valeur, hein, génétiquement, selon l'ordre génétique, selon l'ordre du devenir, l'expérience externe est première, l'expérience interne est seconde. Oui, ça me semble capital. Certains diront, alors ça c'est Descartes, hein, certains diront les sens externes nous trompent quelquefois. C'est vrai, quand j'ai des yeux myopes, je peux tromper. Il y a quelque chose que je ne vois pas et qu'un autre voit. Je mets des lunettes pour mieux voir, c'est sûr. Mais si je les enlève, hein, alors à ce moment-là, alors les sens externes peuvent nous tromper. Ça, c'est sûr. Les sens externes peuvent nous tromper. Mais ce n'est pas parce que les sens externes peuvent nous tromper que je ne dois pas m'en servir. Il y a un risque. Descartes a tellement peur qu'il dit laissons-les et ne prenons qu'expérience interne. Et au fond, Platon disait la même chose. Là, Platon et Descartes disent quelque chose d'à peu près semblable, pas tout à fait, mais d'à peu près semblable. Vous voyez, les sens, il n'y a que les sens internes qui sont tout à fait sûrs, parce que là, je suis sûr de cette sensation, mais je peux dire la même chose. Les sens internes, ça peut me tromper aussi énormément, parce que je suis là dans un subjectivisme effréné que je ne peux pas vérifier par mes sens externes. Mon rêve, c'est une expérience interne. Alors je vérifie mes rêves par mes sens externes. Vous voyez là tout de suite, hein, quelque chose qui me semble très important. C'est que le critère que nous prenons pour dire que la philosophie commence par l'expérience au sens plénier qui implique les sens externes, c'est tout simplement parce que la philosophie se veut exhaustive. Ne jamais chasser quelque chose a priori. Je crois que ça, c'est vrai, c'est le propre du philosophe. Si j'ai un a priori en disant non, moi, j'aime pas le sens externe, le nom de quoi vous n'aimez pas? Est-ce que vous aimez la peinture? Si vous aimez la peinture, vous avez des sens externes, c'est bien évident. Est-ce que vous aimez la broderie, quoi? Vous devez donc aimer les choses humides. Est-ce que vous aimez les qualités? Est-ce que vous aimez vous promener dans un parc, dans une forêt où... Mais tout ça, c'est les sens externes. C'est les sens externes. Est-ce que vous aimez la lumière? Pas trop violent, mais un peu. Est-ce que vous aimez ça? Mais... Vous savez, j'ai presque eu envie de dire, comme notre cher évêque, Mgr Madec, le jour du 8 septembre, il avait la mitre sur la tête, je ne l'ai pas, moi, il avait la mitre sur la tête et il a dit, oh, il est aujourd'hui bien un soleil énorme. Alors profitez, n'hésitez pas, ce genre de capuce que vous avez qui ne sert pas beaucoup, aujourd'hui ça pourrait vous servir. Alors n'hésitez pas pendant le sermon de mettre votre capuce sur votre tête. Alors tous les capuces se sont dit, c'est vrai, le soleil est violent, pour certains ça peut. On n'attrape pas une insolation. Hein. Tourner le dos au soleil, je ne sais pas, mais il ne faut pas que ça. C'est vrai, le soleil est peut-être mauvais. Alors mettez des capuces ou des mouchoirs sur les autres. Je comprendrais que c'est simplement par rapport au soleil. Et que vos sensations externes sont un tout petit peu trop fortes et que vous avez peur que les sensations externes étant trop fortes, l'intériorité en pâtisse. Parce que c'est vrai, quand vous êtes devant une chaleur intense, vous ne pensez plus qu'à la chaleur intense. Quand vous avez les pieds gelés, vous ne pensez plus qu'à vos pieds gelés. Et le sens interne disparaît. Une difficulté énorme de prier. Parce que toute votre âme est dans vos pieds. Vous avez une difficulté énorme d'intérioriser. Et c'est vrai, c'est comme ça qu'on sent très bien. L'âme, elle est présente dans les sens externes, elle est présente dans l'intérieur. Il y a les deux. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre que l'expérience externe n'évacue pas l'expérience interne, l'expérience externe n'évacue pas l'expérience interne, alors que si je commence par l'expérience interne, je laisserai tomber l'expérience externe. Ça, c'est ce que j'ai essayé de dire la dernière fois. Allons plus loin. Le point de départ de la philosophie ne peut pas être l'intuition. Contrairement à ce que dit Maritain. On lui a fait l'objection et Maritain a expliqué le type d'intuition qu'il avait. Alors pratiquement, quand on voit que Maritain explique son intuition, alors ça devient le jugement. Et ça devient le jugement d'existence. Alors, très bien, c'est autre chose. Mais l'intuition n'est pas le jugement d'existence. Si j'essaie de comprendre quelle différence y a-t-il entre expérience et intuition, c'est un très beau problème, ça. Une fois à Fribourg, j'avais fait pendant toute l'année un cours sur expérience et intuition. Et ça vaut la peine, hein, ça vaut la peine. C'est vraiment très intéressant, expérience et intuition, parce que ça se retrouve partout. Vous avez l'intuition de Bergson, vous avez les intuitions d'Henri Poincaré. Qu'est-ce que c'est que l'intuition ? J'espère que vous êtes des gens intuitifs. J'espère. L'intuition, c'est normalement saisir un rapport. Je donne ce que je crois hein, en précisant et en critiquant. Et c'était la conclusion à laquelle j'avais abouti, en secouant dans tous les sens expérience et intuition. L'intuition, c'est le rapport des formes. Des déterminations. C'est un rapport, c'est une relation. Je saisis une relation, je saisis un rapport, une harmonie. Soudain, vous voyez l'intuition esthétique. L'intuition esthétique, c'est très net. Soudainement, ah tiens, j'avais pas vu ça. Mais Malraux aime ça énormément. Quand vous regardez Malraux dit que le musée permet justement des quantités d'intuition qu'on n'aurait pas vu autrement. Parce que vous pouvez mettre la Grèce et l'Inde en parallèle. Et c'est intéressant, c'est évident de faire un parallélisme entre la sculpture grecque et la sculpture de l'Inde, à peu près aux mêmes époques. Alors, vous voyez, de là, dès qu'on fait une relation comme ça, tiens, on saisit quelque chose qu'on n'avait pas saisi avant. J'ai pigé, j'ai compris. On saisit une relation. L'intuition, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'il y a surtout des intuitions esthétiques. Il y a des intuitions affectives. L'affectivité permet de saisir des quantités de rapports. Ce ne sont pas toujours vrais, mais des quantités de rapports affectifs. Y a-t-il une intuition métaphysique ? ce que l'intuition de l'être. Pour Maritain, l'intuition de l'être. Lui, tout le point de départ, c'est l'intuition de l'être. Si l'intuition porte sur une relation de forme, vous comprenez bien que ce n'est pas l'être. L'être ne se donne pas en premier lieu dans la forme. La forme, c'est la qualité. L'être se donne en premier lieu dans ceci et l'exister. L'exister n'est pas un rapport. Il n'est pas un rapport de forme. Donc, au-delà de l'intuition, il y a l'expérience de la qualité. Pour saisir un rapport de deux qualités, il faut avoir déjà saisi ces deux qualités. Si je n'ai pas saisi ces deux qualités, je ne saisirai jamais leur relation. Donc, avant toute intuition, il y a des expériences. Et ça, nous savons bien que nous réfléchissons à tout. Il y a un milieu dans lequel nous avons l'expérience et à partir de là, on a certaines intuitions. Il faut connaître quelqu'un, connaître ses diverses qualités, connaître ses divers défauts pour avoir une petite intuition affective. Oh, j'ai bien vu comment tu réagissais. Oh, j'ai compris. Rien du tout. Et celui qui croit avoir compris, il dit, j'ai saisi. Il a saisi deux qualités, puis les a mis en relation. Il a dit, c'est ça, j'ai vu ta réaction. Nous, soi-même, on l'a rien vu, mais l'autre a saisi ça. C'est pas toujours vrai. C'est très vrai subjectivement, mais c'est pas toujours vrai objectivement. Et c'est très vrai subjectivement, pourquoi? Parce qu'il a mis en relation deux qualités. Que dans la réalité elle-même, ces deux qualités n'étaient pas. Donc, il y a une objectivité pour celui qui l'a saisi. Il a mis ça, mais c'est subjectif, cette relation. Les qualités sont objectives et la relation est subjective. Oui. Dans toute intuition, il y a un élément subjectif. C'est pour ça que toute intuition demande d'être vérifiée. Quand vous dites, j'ai eu l'intuition de ça, ça c'est bien vrai. Vérifiez. L'intuition porte sur une relation de forme. L'expérience porte sur ce qui est, sur la qualité. J'expérimente une qualité et j'ai l'intuition de diverses qualités. J'ai l'intuition d'une harmonie de diverses qualités. J'ai l'intuition d'un rapport de diverses qualités. Vous voyez ? Donc, il faut bien saisir la différence entre expérience et intuition en comprenant que toute intuition est seconde. C'est pour ça que nous pouvons avoir des intuitions à l'intérieur de nos expériences internes ou à l'intérieur de nos expériences externes. Il y a des intuitions dans l'ordre affectif, il y a des intuitions dans l'ordre des qualités, il y a des intuitions mathématiques. Vous essayez un rapport. Mais vous n'avez pas une intuition tout de suite comme ça. Il faut d'abord avoir saisi pas mal de choses pour subitement mettre en relation. Je mets en relation deux choses, deux situations que je n'avais pas du tout compris qu'il fallait mettre en relation. Et en les mettant en relation, tiens, je saisis ça. L'intuition d'une couleur par rapport à une autre couleur. Il y a quelque chose qui jaillit là. Bon, l'intuition est donc seconde. L'inspiration. Est-ce que je peux commencer ma philosophie par l'inspiration? Non. Ce serait bien intéressant. Parce que je serai à l'abri de toutes les critiques. Parce que je dirais, j'ai eu cette inspiration, vous ne l'avez pas, c'est pas étonnant que vous ne comprenez rien. Mais moi, j'ai eu cette inspiration, c'est un privilège. J'ai eu cette inspiration telle nuit, à tel moment, ça je sais, j'ai eu cette inspiration. J'ai eu cette inspiration extraordinaire, j'ai compris, en un rien de temps, tout est devenu très très lucide, très intelligible, merveilleux. Ben oui, mais c'est personnel. Toute inspiration se traduit dans une intuition. C'est quelque chose de purement intérieur, subjectif, l'inspiration. Je ne peux pas, quand j'ai une inspiration, je ne peux pas la redonner quand je veux. Tandis que l'expérience, je peux la refaire. Ça, je peux refaire une expérience pénible, je sais très bien que je peux la refaire. dégringoler, vous pouvez très bien vous remettre dans une situation où vous dégringolerez encore. Ce ne sera pas tout à fait la même chose, mais avant, vous dégringolerez encore. Vous pouvez, tandis que l'inspiration, non. C'est quelque chose de très subjectif et qu'on ne peut pas répéter. Alors, l'inspiration est au point de départ de la connaissance poétique, à savoir, mais pas de la connaissance philosophique. C'est ce qui fait comprendre comment la connaissance poétique saisit bien quelque chose, mais cette connaissance poétique est englobée dans la connaissance philosophique. Un véritable philosophe doit s'intéresser à cette connaissance poétique. Il s'intéresse donc à l'inspiration. Il sait bien que l'inspiration est source d'un certain type de connaissance que tout le monde n'a pas. Parce que tout le monde n'est pas poète. Tout le monde est, si vous voulez, a quelques tendances vers la poésie. Tout le monde a une certaine tendance vers l'art. Mais certains, très peu. D'autres, beaucoup plus. Ils vibrent tout de suite. Alors ils sont très très capables de comprendre l'inspiration. Mais la connaissance philosophique ne commence pas par l'inspiration. Il a encore récité Maritain. Maritain dit que l'inspiration poétique va beaucoup plus loin dans la connaissance de l'être que la connaissance métaphysique. Ça, c'est très curieux de la part de Maritain de dire ça. La connaissance poétique va beaucoup plus loin. Je crains qu'à ce moment-là, Maritain confonde être et qualité. Je crois que l'inspiration poétique va très loin dans l'ordre de la connaissance de la qualité. C'est le propre du poète. Le poète a un sens très très aigu de la qualité, mais pas de l'être existant. Ça lui est bien égal. Ce n'est pas ça qui l'intéresse, ce poète. Ce qui l'intéresse, c'est les qualités. Ça existe pas. Le tout, c'est qu'il en ait la connaissance. Hein. C'est ça qui est intéressant. Puis ça existe pas, il le dira. C'est quelque chose de nouveau. Et du fait même qu'il le dise, ça existe. Mais ça existe poétiquement. Pas d'une manière existentielle dans la réalité. Ça existe dans la pensée de l'artiste. Et pour l'artiste, c'est suffisant. C'est le reste, c'est second. C'est très second, tandis que du fait que ça existe en lui. Donc, il y a bien une inspiration source. Inspiration source d'un type de connaissance particulier qu'on appelle la connaissance poétique. Cette connaissance poétique va saisir quoi? Elle va saisir les qualités elles-mêmes. Je vais plus loin. La qualité prise en elle-même. La possibilité de les qualités, la possibilité des relations qualitatives. C'est ça que saisit l'inspiration. Là aussi, si je vais très loin, je verrai que l'inspiration, elle saisit quelque chose qui est possible. Je n'ai jamais l'inspiration, elle regarde quelque chose qui existe. Quelque chose qui existe, non, ça ne m'inspire pas. Au sens strict, c'est source lointaine d'inspiration. Mais l'inspiration est toujours du côté du possible, c'est-à-dire qu'elle regarde une relation à l'intérieur des qualités possibles. Une relation possible de qualité. C'est beaucoup plus ça, c'est une relation possible de qualité, l'inspiration. Donc l'inspiration est vraiment source d'une certaine connaissance, mais elle n'est pas source de la connaissance philosophique. La connaissance philosophique a quelque chose de plus radical, de plus fondamental et de premier. L'inspiration est second, comparativement à la connaissance philosophique. C'est pour ça que je ne dirais pas comme Maritain que la connaissance poétique va plus loin dans l'ordre du réel que la connaissance métaphysique. Non, elle ne va pas plus loin. Elle est d'un autre type. Elle est autre chose. Elle met en pleine lumière l'aspect qualitatif. En pleine lumière. Alors que la connaissance métaphysique, mais en pleine lumière l'être, l'exister, qui est quelque chose de plus fondamental que la qualité. Ce que nous avons simplement pour saisir ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme point de départ de la philosophie? La révélation. ne peut pas commencer la philosophie par la révélation. Pourquoi ? Parce que la révélation, elle aussi, est tout à fait subjective. J'ai reçu telle révélation, vous ne l'avez pas reçue. Je ne peux pas. Je ferai une philosophie alors uniquement pour moi. Et uniquement pour ceux qui ont reçu cette révélation. Vous voyez, la révélation surnaturelle, elle est reçue par la foi. Alors, je peux évidemment parler pour tous les croyants, c'est sûr. Mais parler pour tous les croyants, ce n'est pas la philosophie. La philosophie parle de l'homme à l'homme. Et elle ne parle pas du croyant pour le croyant. Ça, c'est un discours théologique. Le discours théologique présuppose la foi et parle pour les croyants. Tandis qu'au contraire, le discours philosophique regarde l'homme dans ce qu'il a de plus fondamental et parle aux hommes. C'est pour ça que Vatican II met en pleine lumière l'exigence de la philosophie quand Vatican II nous dit l'ouverture au monde. C'est-à-dire regarder l'homme comme homme et ne pas l'oublier comme tel. Parce que justement, le discours théologique, lui, ne regarde que l'homme, ne regarde que le croyant, que celui qui a la foi. Alors, il peut y avoir aussi d'autres révélations qui ne sont pas nécessairement surnaturelles et que je reçois par la foi. Alors à ce moment-là, ces révélations sont très proches de l'inspiration. Est-ce que je peux les distinguer ? Quand je suis moi-même source de ma révélation, qu'est-ce que c'est ? Et quand quelqu'un qui me transcende complètement et souffre ma révélation, alors j'ai la révélation sur la joie. Mais quand la révélation est à l'intérieur même de l'inspiration, si c'est moi-même qui suis source de ma révélation, c'est mon inspiration. Ce que je dirais spontanément, j'ai eu telle inspiration. Quand je dis j'ai eu telle inspiration, je ne dis pas du tout que cette inspiration est nécessairement divine. Je ne dis pas du tout ça. Si je crois que quelqu'un reçoit des révélations divines, alors je dis, je crois qu'il reçoit des révélations divines. Mais si je le regarde de l'extérieur et que je ne veux pas m'engager, je dirais, cette personne, elle est très inspirée. Très inspirée. Est-ce qu'elle est poète? Est-ce qu'elle est artiste? Est-ce qu'elle reçoit ça vraiment de Dieu? Ah, je ne veux pas le juger. Très intéressant, vous savez, de soumettre à Rome, je l'ai fait une fois, quelqu'un qui disait avoir reçu des révélations. C'est très possible, quand on connaît la personne. Mais j'ai vu la manière dont celui, le cardinal Chappi, qui est un petit peu spécialiste de la question, regardez ces choses-là. J'ai regardé un peu les critères. Il m'a dit, je lis. Si tout ce qui est dit dans le contenu peut relever une expérience mystique, intérieure, je ne dis pas qu'il y a révélation. Si ça peut être inspiré. Ça peut inspiré. Tout ce qu'elles disent, ça peut s'expliquer. C'est une personne pieuse, c'est une personne assez instruite. Elle a lu quand même des auteurs mystiques. Elle a eu des conversations avec des théologiens. Tout ce qu'elle disait peut s'expliquer. Je ne dis pas les éléments de la révélation de Dieu. Je dis qu'elle est inspirée. J'aimais beaucoup ce discernement, parce que c'est très vrai. Vous ne pouvez dire qu'il y a révélation surnaturelle que si vous êtes en face de quelque chose qui ne peut pas s'expliquer par l'inspiration humaine, poétique. Et ça va aller très loin, parce qu'alors c'est dans des faits, par exemple, quelqu'un qui prophétise. C'est de Dieu parce que c'est du démon. C'est comme tout ça qui discernait. Elle dit des choses étonnantes, elle ne peut pas le savoir. Mais attention, le démon peut inspirer aussi. Alors, évidemment, si c'est une personne qui a une vie très, 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 très spirituelle, très, 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 très donnée à Dieu, il y a des chances que ce ne soit pas le démon. Mais le démon peut s'infiltrer exprès pour faire croire que. Donc, c'est très difficile. Hein. Je prends un point ici. Le poème de Parménide est-il de révélation divine? Est-il tout simplement une inspiration? Quand Socrate dit qu'il a reçu à Dès, cette inspiration vient de toi toi-même. Est-ce que c'est une inspiration ou est-ce que c'est une révélation divine? La Pythie, est-ce qu'elle disait des choses qui étaient d'ordre inspiré ou des choses révélées? Faut pas aller trop vite, hein. Faut pas aller trop vite. Faut pas être naïf. Et faut pas être sceptique. Deux défauts à éviter. La naïveté qui consiste à dire, ah, c'est un mirage, j'ai jamais entendu parler de vous. Jamais entendu parler de ça. C'est pas étonnant, qu'est-ce que vous connaissez? Pas grand chose. Alors vous êtes en face de quelqu'un qui vous dépasse une coudée, donc c'est Dieu. Mais non, il vous dépasse une coudée. Tout simplement. Alors c'est pas Dieu. C'est pas nécessairement Dieu. C'est tout simplement parce qu'elle est là. Elle est beaucoup plus inspirée que vous. C'est vrai, pour vous, elle joue le rôle de quelqu'un qui est inspiré. Mais ce n'est pas nécessairement de Dieu. Ça peut venir d'une expérience intérieure, très profonde, très poussée, qui est une expérience intérieure. Il y a donc tout un discernement très très délicat. Ce qui m'intéresse ici au point de vue philosophique, hein, puisque je me suis avant tout au point de vue philosophique, ce serait, on pourrait pousser ces questions-là en théologie. Et pousser ces questions-là en théologie serait très intéressant, parce que c'est toute la question de la La révélation surnaturelle, c'est la prophétie. L'inspiration, c'est l'expérience que je peux avoir sous le souffle de l'Esprit Saint. Ce n'est pas nécessairement le charisme de prophétie. Le charisme de prophétie est quelque chose de très très particulier, de très précis. Il implique un contenu de connaissances qui vont au-delà de tout ce que le milieu dans lequel se trouve le prophète ne peut pas expliquer. Quelque chose qui vraiment dépasse, un petit peu comme pour le miracle, vous voyez. On est en présence de quelque chose qui implique nécessairement une intervention divine. Alors je dis révélation surnaturelle. On doit le faire toujours avec beaucoup, beaucoup de nuances. Hein. Ce qui m'intéresse au point de vue philosophique, s'il y a une véritable révélation surnaturelle, ce n'est plus le discours humain. Si c'est une révélation qui n'est pas divine, qui est l'inspiration, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. L'inspiration peut être source pour ma connaissance poétique, elle n'est pas source de ma connaissance philosophique. Enfin, je ne peux pas partir non plus de la conscience, parce que la conscience est toujours quelque chose de second. La conscience n'est jamais première. Dans ma connaissance philosophique, dans ma connaissance humaine. Et donc, c'est toujours quelque chose de second. Ça implique une attitude réflexive. Et je ne peux pas partir de l'opinion, parce que l'opinion, ça provient d'un autre. C'est pas l'opinion des autres qui fait la philosophie, c'est la recherche de la vérité pour savoir ce que c'est que l'homme. Donc, je vois, dès que je critique un tout petit peu, qu'une philosophie qui veut aller le plus loin possible, qui veut supprimer tout a priori, est une philosophie qui part nécessairement de l'expérience externe. Cette expérience externe n'exclut rien des autres commencements de la philosophie. Elle les ordonne, tout simplement. Ça, il faut bien y réfléchir. Comprenons. L'expérience n'est pas tout dans la philosophie. Il faut bien comprendre. Si l'expérience était tout dans la philosophie n'aurait pas d'autre but que de démontrer, que de montrer, d'exposer, de décrire mon expérience externe ou mon expérience interne. Certaines philosophies font cela, n'ont pas d'autre but que de décrire leur expérience. Alors si je reste uniquement à ce niveau-là, je reste à un niveau littéraire, artistique, plus ou moins. Parce que le propre de l'artiste, c'est pas de décrire. Un véritable artiste a horreur de la description. N'est-ce pas? C'est pas la description. Mais il y a des gens qui n'ont pas assez de génie, alors ils décrivent. Ils aiment bien décrire. Tandis que le véritable artiste, lui, c'est pas ça, c'est autre chose. Il met en lumière quelque chose et il laisse tomber tout le reste. C'est ça le propre de l'artiste. Parce qu'il veut, il veut saisir. Tandis que celui qui décrit, bon, il y a un peu de relief, mais pas nécessairement beaucoup de relief. Hein. Tous les détails y sont. Tous les détails y sont. Alors, si tous les détails y sont, quelquefois on se perd hein, dans le maquis des détails. Et on ne voit plus rien du tout. Quantité, on a compté 1000 pattes au vert, il y en a fait 1000 pattes. Hein. Et c'est pas ça qui va nous faire comprendre ce qu'il est. Il y a simplement 1000 pattes, c'est tout. Et on ne verra rien d'autre. Alors, décrire n'est pas suffisant pour la philosophie. Donc je ne peux pas m'arrêter à l'expérience. Quel est le second moment de la philosophie? Je pars de l'expérience. Je peux de l'expérience externe voir l'expérience interne. Très bien. Je peux de cette expérience interne découvrir qu'il y a des intuitions. Très bien. Tout ça, je reste quand même dans une expérience immédiate qui ne me fait pas quitter la description. C'est tout ce que je vois, tout ce que je peux comprendre, tous mes sentiments. Si je veux aller plus loin, si la philosophie ne se contente pas seulement de la compréhension la plus grande, l'extension la plus grande, mais aller le plus loin possible dans la compréhension, il faut que mon intelligence aille le plus loin possible dans la pénétration de la réalité. Et c'est pour ça que saint Thomas a dit que comprendre, intelligere, c'est leggere intus. C'est une étymologie très particulière, mais c'est très intéressant et c'est très actuel. Intus leggere. Donc, lire de l'intérieur, intus. Quand je décris, je lis de l'extérieur. Il s'agit de lire de l'intérieur. Autrement dit, le propre du philosophe, c'est d'essayer en face d'une réalité, et cette réalité que le philosophe saisit, c'est là, saisir ce qu'il y a d'essentiel, et le distinguer de ce qu'il y a de tout à fait secondaire. Saisir ce qu'il y a de nécessaire et le séparer, le distinguer de ce qu'il y a de fondamental. Le propre du philosophe, c'est de toujours pouvoir discerner l'essentiel de l'accidentel. C'est du reste le propre de l'homme intelligent. Quand on a affaire à quelqu'un qui n'est pas intelligent, il s'encombre de détails. Mais c'est affolant. Il dit, mais passez, 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 quand y aura-t-il un gros poisson? Parce qu'on a que des petites arêtes dans tous les sens. Non, passez tout ça, c'est un peu l'essentiel, quoi. Alors, on décrit. Mais très bien, on décrit. Mais ça ne nous avance à rien du tout. On peut en ajouter. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? Terriblement agaçant, hein. Vous ajoutez indéfiniment. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? Le propre de l'intelligence, intus leggere, lire de l'intérieur, saisir immédiatement le noyau principal, le noyau central. C'est ça, être intelligent. C'est saisir ce qu'il y a d'essentiel et laisser tomber l'accidentel. Ah, vous savez que c'est accidentel, vous savez que ça existe, vous ne le méprisez pas. Pas mépriser l'accidentel, pour pas mépriser les choses secondaires, mais il faut se dire ce qu'il y a de premier. Ah. C'est ça le propre de l'intelligence, c'est de saisir ce qu'il y a de premier. On va tout de suite, et on reconnaît tout de suite un être intelligent, tout de suite, il met là, ah c'est ça les choses essentielles, le reste, ils sont tombés. Tandis encore une fois, quelqu'un qui n'est pas très intelligent, il restera toujours, n'est-ce pas, autour des choses secondaires. Comme elles sont infinies, il peut rester indéfiniment. Et puis il se courra dans tous les sens et ça fera de la mousse. Et au bout d'un certain temps, on ne verra plus que la mousse et on n'aura plus du tout le noyau essentiel. Ça ne fait rien du tout. Le noyau essentiel disparaît. Bien, le philosophe veut être le plus intelligent possible. C'est le propre du philosophe. Ça commence pas la peine de faire de la philosophie. Le philosophe veut être le plus intelligent possible, c'est-à-dire qu'il veut aller le plus loin possible dans l'éveil de l'intelligence. Et donc le philosophe veut toujours saisir dans la réalité et dans l'homme, puisque c'est l'homme qui l'intéresse, ce qu'est le premier. C'est ça qu'il veut. Qu'est-ce qu'est le premier ? Et saisir ce qu'est le premier en le mettant en pleine lumière, en laissant tomber les choses secondes. C'est ça propre de l'intelligence. Alors, comment le philosophe va-t-il arriver à saisir ce qu'est le premier ? C'est pas si grave que ça. Comment le philosophe va-t-il arriver à saisir ce qu'est le premier ? Ce qu'il y a d'essentiel, le noyau, par rapport à l'homme, par rapport à l'homme existant. Alors, il va être attentif à la démarche même de mon intelligence. Mon intelligence, hein, faut pas l'oublier, mon intelligence est liée au sens. Parce que l'expérience, je saisis la réalité dans sa totalité. Et c'est pour ça que je la décris. Et je la saisis de l'extérieur. C'est bien évident, je saisis de l'extérieur. Quand je regarde une table, je la touche, je la saisis de l'extérieur. Comment saisir de l'intérieur la table ? D'autres moyens. Il faut la couper, mais quand j'aurai coupé, elle sera plus tard. Alors, il faut couper, il faut diviser. C'est le propre de l'intelligence, c'est l'intelligence analyse. Si je veux saisir l'intérieur d'une chose, il faut l'analyser, il n'y a pas moyen autrement. Vous ne pouvez pas autrement, vous resterez toujours de l'extérieur. Il faut l'analyser. Mais comment l'analyser ? Il y a deux espèces d'analyse, vous savez bien. Il y a une manière de couper le poulet selon son organisation propre. Il y a une manière de couper le poulet avec un sécateur. Les gens avec un gros sécateur, merveilleux, ils coupent dedans, ils tapent dedans. Après, il n'y a plus de la bouillie. Plus personne n'y recommande, rien du tout. Plus d'espèce d'importance, mais c'est bien coupé. Et c'est très vrai que c'est très difficile d'analyser. C'est pas commode du tout d'analyser. D'analyser en respectant le poulet. En respectant l'animal. En respectant l'homme. Si vous coupez l'homme en petit tronçon, vous n'y reconnaîtrez rien du tout. Parce que quand c'est un petit tronçon, un animal, c'est un petit tronçon aussi. Non ? Alors vous aurez des petits tronçons, vous mettrez une étiquette à tronçon d'homme, tronçon de verre. Et de extra-sexe, d'extérieur. Tandis que si vous découpez, et vous savez découper, vous aurez toute l'organisation profonde de l'homme, et vous saisirez les vraies dimensions de l'homme. Et vous ne saisirez pas seulement quantitativement, l'homme est un animal qui pèse entre tant de kilos et tant de kilos, un homme est de telle taille, ben, les animaux aussi, vous trouverez toujours des choses semblables. Vous ne verrez plus aucune différence entre l'animal et l'homme. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait au bout d'un certain temps. On ne verra plus de différence. Oui, on verra une complexité plus grande, et puis tout. Mais on verra des choses matérielles. Les choses essentielles ne seront plus vues. En biologie, en sciences biologiques, il faut bien le dire, au bout d'un certain temps, on ne voit plus la vraie différence entre l'homme et l'animal. Une différence de complexité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vraiment l'homme est uniquement une différence de complexité par rapport à l'animal, hein, c'est très ennuyeux. Ça veut dire, oui, ça quantitativement, il y a une complexité plus grande. C'est pas ça la différence entre l'homme et l'animal. C'est que l'homme est capable d'aimer. C'est comme est capable de connaître. Et l'animal, non. Alors il faut arriver à découvrir, hein, et à analyser vraiment. Alors, comment analyser ? C'est ça qui me semble la chose la plus importante. Comment analyser ? Je ne peux pas rester uniquement au niveau descriptif, mais je veux arriver à une analyse. Il y a mille façons d'analyser. Le psychanalyste analyse. Hein? Il le dit, j'analyse les états psychiques. Il analyse autrement que le philosophe. Le psychologue veut analyser. Le savant veut analyser. Le médecin veut analyser. Tous. Ils veulent tous analyser. Le tout, c'est de savoir quelle est la manière où on analysera de la manière la plus profonde pour saisir le noyau central, le noyau premier. C'est ça la question qu'il faut se poser.